Un jour, dans une conversation, quelqu'un m'a dit « L'argent ne fait peut-être pas le bonheur, mais il paie la voiture de sport pour aller le chercher. » Peut-être. Et combien faut-il d'argent à la banque pour qu'on se considère satisfait à l'abri du besoin? On peut être riche et malheureux comme une pierre. Ou un peu juste en fin de mois, mais heureux. Et assez curieusement, on peut être pauvre et riche à la fois. Dans le second chapitre du livre de l'Apocalypse, je continue de lire la lettre que le Seigneur adresse à l'église de Smyrne. Voici ce que dit celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est à nouveau vivant. Je connais ta détresse et ta pauvreté, et pourtant, tu es riche. Comme pour 6 des 7 églises, le Seigneur commence par un compliment. Et pour les membres de l'église de Smyrne, il est réconfortant de savoir que Jésus connaît parfaitement leur situation. Comment ces chrétiens peuvent-ils être à la fois riches et pauvres? Surtout que le vocabulaire précise que dans la réalité, ces fidèles croyants sont dans la misère la plus noire qui soit, dans le dénuement quasi total et même réduit à l'état de mendicité. C'est en effet ce que signifie le mot grec psoucéan, traduit par pauvreté. Un bon nombre de chrétiens de Smyrne sont soit des esclaves, soit des citoyens de la ville qui ont été destitués de tous leurs biens par leurs persécuteurs, qui sont autant juifs que romains. Bien qu'ils soient pauvres à l'extrême, les croyants de Smyrne sont riches. C'est en tout cas la perspective divine. Leur richesse sont les merveilleuses promesses que le Seigneur a faites aux siens et que par la foi, les chrétiens se sont appropriés et expérimentent jour après jour. Cette description des croyants de Smyrne est l'inverse de la situation des croyants de Laodicée, auxquels le Seigneur fait le reproche suivant. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. Normalement, humainement parlant, l'église de Smyrne ne devrait plus exister. Pourtant, elle est prospère, soutenue par la grâce de Dieu, parce que ses membres ont un amour pur et profond pour le Seigneur. Au milieu de leurs afflictions, ils manifestent le fruit de l'esprit que l'apôtre Paul mentionne dans son épître aux Galates, et qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ces chrétiens dénués de tout forment ensemble une assemblée qui est riche pour Dieu, et donc riche à ses yeux, ce qui, comme je l'ai dit, contraste avec l'église de Laodicée, dont les membres roulent pratiquement sur l'or, mais sont spirituellement très pauvres. L'église de Smyrne est l'exemple type de la richesse spirituelle qui a été l'héritage des églises en souffrance, mais fidèles, au travers de l'histoire. Jésus dit aussi à cette église de Smyrne, « Je connais ta détresse. » En d'autres mots, « Je sais que vous tous qui avez placé votre confiance en moi êtes dans l'affliction à cause de mon nom. » Le mot grec « slapis », traduit par « détresse », signifie littéralement « sous pression ». Et dans le Nouveau Testament, il est généralement utilisé pour exprimer les persécutions. À cause de sa fidélité à Jésus-Christ, l'église de Smyrne subit une forte pression qui provient de 3 directions différentes. Premièrement, et comme je l'ai déjà dit, les chrétiens sont engagés dans un conflit avec les autorités romaines parce qu'ils refusent de rendre un culte à l'empereur du moment qui est Domitien. Deuxièmement, ces fidèles du Seigneur habitent dans une ville qui déborde d'idoles. Mais étant donné qu'ils ne prennent évidemment pas part aux pratiques païennes qui leur sont associées, les non-chrétiens considèrent les croyants comme des éléments antisociaux. Les principales divinités de Smyrne se trouvent le long de la rue d'or. le nom de la rue principale de la ville qui fait le tour des collines du mont Pagos. À l'une des extrémités de cette rue, on a le temple de Cybèle, et à l'autre bout, le temple de Zeus. Et entre les deux, il y a encore les temples dédiés au dieu Apollon, Asclépios, Aphrodite, pour ne citer que les plus connus. Bien sûr, les chrétiens n'ont que faire de cette panoplie d'idoles et les rejettent en bloc. Comme en plus ils disent adorer un dieu invisible, les païens leur reprochent d'être athées, ce qui à cette époque est très mal vu. Étant donné qu'une grande partie de la vie sociale des habitants de Smyrne consiste en culte, ou plutôt en partout en l'honneur des faux dieux, et que les chrétiens n'y participent pas, on les déteste. Mais les problèmes des croyants ne s'arrêtent pas là, car ils ont également des pratiques qui déplaisent fortement aux païens. En effet, à cause de la communion au corps et au sang du Christ qu'ils célèbrent ensemble en prenant le pain et le vin, et par la façon dont ils se saluent en se donnant l'accolade fraternelle, on accuse les chrétiens d'être des cannibales et d'avoir des mœurs corrompues. À cette époque, devenir disciple de Jésus n'est pas une sinécure, mais demande une réelle consécration. Je continue le texte. Je sais les calomnies de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas. C'est une synagogue de Satan. Non seulement les chrétiens de Smyrne sont haïs et maltraités par les Romains, leurs concitoyens païens, mais aussi par ceux qui se disent juifs. C'est la troisième pression qu'ils subissent. L'histoire de l'Église révèle qu'avant même d'attirer sur eux les foudres de Rome, les chrétiens furent persécutés par les Juifs, tout comme Jésus. Il faut savoir qu'aux yeux de Dieu, les descendants d'Israël qui n'acceptent pas Jésus comme leur Messie sont des impies. En effet, selon l'apôtre Paul, le véritable Israël, qu'il appelle Israël de Dieu dans son épître aux Galates, se compose de Juifs et de non-Juifs qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. Paul est très clair à ce sujet. Dans son épître aux Romains, il écrit « Ce n'est pas ce qui est visible qui fait le Juif, ni la marque visible dans la chair qui fait la circoncision. Mais ce qui fait le Juif, c'est ce qui est à l'intérieur. Et la vraie circoncision est celle que l'Esprit opère dans le cœur et non celle que l'on pratique en obéissant à la lettre de la loi. En effet, ce ne sont pas tous ceux qui descendent du patriarche Israël qui constituent Israël. Et ceux qui descendent d'Abraham ne sont pas tous ses enfants. Comprenez-le donc. Seuls ceux qui placent leur confiance en Dieu sont les fils d'Abraham. Jésus appelle les Juifs qui persécutent ceux qui croient en lui la synagogue de Satan. L'expression est forte et l'insulte cinglante, mais elle est juste et méritée. On sait que suite à l'assassinat de Polycarpe, évêque de Smyrne, les Juifs se sont joints aux acclamations des païens. Les Hébreux étant devenus la synagogue de Satan, comme Jésus les appelle, ils ne sont plus les héritiers légitimes d'Abraham. Les Juifs qui rejettent Jésus et le détestent sont tout autant au service du diable que ceux qui adorent des idoles. Sur les sept lettres adressées aux églises, la présence de Satan est fortement ressentie puisqu'il est mentionné dans quatre lettres. Les Juifs sont accusés de répandre des calomnies sur les chrétiens. Le mot, ainsi traduit, décrit généralement des paroles hostiles proférées contre Dieu, des blasphèmes en quelque sorte, ce qui montre la gravité de la conduite ignoble des Juifs. Je continue le texte. N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Voici le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous éprouver, et vous connaîtrez 10 jours de détresse. L'exhortation de Jésus à cette église qui est dans la détresse est littéralement « Cesse de craindre ce que tu vas souffrir. » Oui, mais quand même, il y a de quoi refroidir le plus brave. C'est vrai, et aussi la raison pour laquelle, sachant que les disciples seraient persécutés, Jésus les avertit d'avance. Dans l'Évangile, selon Jean, on lit « Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. » La mention « Vous connaîtrez 10 jours de détresse » signifie une période limitée et relativement courte. En effet, il existe au moins 9 passages dans les Écritures où c'est ce que 10 jours signifie. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, pour les croyants fidèles, la souffrance du juste serait-elle de courte durée et un problème insoluble? On peut comprendre que les impies souffrent, mais pourquoi en est-il de même des personnes pieuses? Les Écritures donnent plusieurs raisons. La souffrance peut être une mesure disciplinaire du Seigneur, ou alors une mesure préventive, comme l'écharde que mentionne l'apôtre Paul dans sa seconde épître aux Corinthiens, et qui le tourmente afin qu'il ne devienne pas orgueilleux. Troisièmement, la souffrance est le meilleur remède contre le péché. Quatrièmement, la souffrance permet de développer la persévérance dans l'épreuve, et donc fortifie la foi. Dans sa seconde épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul écrit « Je trouve aussi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour le Christ. Car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. » Cinquièmement, le croyant qui souffre a des occasions de témoigner pour Dieu, des opportunités qu'il n'aurait pas sans la souffrance. Dans le livre des Actes, après avoir été battu de verges et jeté en prison, on lit que « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. » Cette réaction des 2 missionnaires, face aux injustices qu'ils ont subies, surprend les prisonniers païens, et a pour résultat la conversion à Jésus-Christ du geôlier et de sa famille, et peut-être d'autres également. Paul et Silas ont mis en pratique une parole du roi David, qui dans le psaume 56 écrit « En Dieu je me confie, je ne crains rien, que peuvent me faire des hommes ?» Enfin, quelle que soit la souffrance, elle est toujours l'occasion de rendre gloire à Dieu en lui restant fidèle. C'est le cas de Job, qui après avoir subi une longue série de malheurs terribles, s'incline devant Dieu et dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Tout comme Job, l'église de Smyrne est le théâtre d'un combat spirituel dans la guerre continuelle que mène Satan contre l'Éternel. Comme le diable ne peut pas s'en prendre directement à Dieu, il s'attaque à son peuple. Et sait très bien qu'il ne lui est pas possible de faire condamner un seul croyant authentique, parce que dans l'Évangile selon Jean, on lit que Jésus déclare « Celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. » Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit « Il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu. » Quant à l'apôtre Paul, dans son Épître aux Romains, il affirme que tous ceux que Dieu a choisis partageront sa gloire. Je lis ce verset. « Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Celui qui a ainsi destiné, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes, et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. » Selon ce passage, et bien d'autres, il est hors de question qu'un seul enfant de Dieu puisse se perdre en route, car quoi qu'il arrive, tous les croyants ressusciteront pour partager l'éternité avec leur Sauveur. Comme Satan ne peut pas changer la destinée éternelle des enfants de Dieu, mais qu'il a pour eux une profonde haine, il utilise toutes les ressources des puissances des ténèbres à sa disposition pour leur faire du mal. Sur terre, il tente de décourager les croyants dans leur marche chrétienne et de les faire tomber dans le péché. Dans les cieux, il les accuse en pointant son doigt sur leurs fautes. Mais comme c'est Dieu qui est au gouvernail et qui dirige toutes les circonstances de la vie, il ne permettra pas que Satan à nous tenter au-delà de nos forces, ni de tourmenter l'Église de Smyrne plus de 10 jours, un temps bien circoncis. Je continue le texte du chapitre 2 de l'Apocalypse. « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie comme prix de ta victoire. » Les chrétiens de Smyrne ont déjà beaucoup souffert, mais d'après ce que Jésus leur dit, le pire est encore à venir. Certains seront emprisonnés ou exilés, comme l'apôtre Jean, et d'autres mourront pour leur foi. Ils serviront alors de pâture aux lions du cirque, ou bien de torches vivantes. Les croyants de Smyrne, comme les autres chrétiens de l'Empire, sont exhortés à choisir la fidélité de Dieu au compromis. Ils doivent donc vivre l'exemple de Daniel, ou de ses 3 amis qui ont osé braver l'ordre de Nebuchadnezzar et qui lui ont dit froidement « Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brûle un feu ardent, ainsi que de tes mains, ô roi, qu'il nous délivre. Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as érigée. » Comme je l'ai déjà dit, Jésus n'a aucun reproche à faire à l'Église fidèle de Smyrne qui est sur le point de subir de féroces persécutions. Et à tous les croyants qui tiennent bon et lui restent fidèles jusqu'à la mort, le Seigneur promet une récompense particulière, la couronne de vie. Aux Jeux olympiques antiques, le vainqueur d'une épreuve athlétique reçoit une couronne de laurier, et les généraux victorieux sont honorés de la même manière. Ici, le Seigneur promet la couronne de vie. L'apôtre Jacques en parle aussi quand il écrit « Heureux l'homme qui endure l'épreuve, car après avoir été testé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. » Les Écritures mentionnent plusieurs types de couronnes. À chacune récompense, le croyant fidèle pour son dévouement au Seigneur dans un domaine particulier. Celui qui persévère dans l'épreuve, et surtout face aux souffrances injustes des persécutions, prouve par là que son allégeance au Christ est authentique. Dans la confession de foi de Westminster, qui est le credo des églises presbytériennes, il est écrit « Ce que Dieu a accepté en son bien-aimé, qu'il a efficacement appelé et sanctifié par son esprit, ne peuvent déchoir de l'état de grâce, ni entièrement, ni définitivement. Mais ils y persévéreront certainement jusqu'à la fin et seront éternellement sauvés. » Je continue de lire dans le second chapitre de l'Apocalypse. « Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, la seconde mort ne causera pas de mal. » Comme je l'ai déjà dit, l'exhortation « Que celui qui a des oreilles écoute » se trouve à la fin de chacune des 7 lettres. Cette phrase met l'accent sur l'importance de prendre bien au sérieux l'enseignement des Écritures, de les lire attentivement et de les mettre en pratique. Dans son évangile, l'apôtre Jean rapporte que pendant son ministère terrestre, Jésus a dit « Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Et maintenant que le Seigneur est ressuscité, il dit à Jean que, au vainqueur, la seconde mort ne causera pas de mal. Au travers des siècles, beaucoup de croyants ont payé de leur vie leur foi en Jésus-Christ. Mais à la fin de leur existence terrestre, a été un triomphe. Ils ont fini en apothéose. De ce nombre est Polycarpe, évêque de l'église de Smyrne, dont j'ai parlé. Son exécution au IIe siècle est un témoignage éloquent de la réalité des persécutions. Sommé de reconnaître publiquement César comme seigneur divin, Polycarpe décline poliment, puis il confesse publiquement Jésus-Christ comme son seigneur et son Dieu, ce qui lui vaut le bûcher. Les croyants de Smyrne sont persécutés, mais ils restent fidèles au Seigneur jusqu'au bout et jusqu'à la mort. En cela, ces chrétiens illustrent bien ceux qui, ayant écouté la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé. Ils persévèrent et ainsi portent du fruit. Écrit Luc. Les paroles réconfortantes de Jésus à l'église de Smyrne s'adressent à tous les croyants, à tous ceux qui l'acceptent comme leur sauveur, à ceux qui croient en lui. Jésus dit, « Oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je vous dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé, possède dès à présent la vie éternelle, et il ne sera pas condamné, il est déjà passé de la mort à la vie. » À l'abri du jugement, les croyants sont épargnés par la seconde mort qui est les temps de feu. Un célèbre prédicateur américain, Moody, a dit « Celui qui naît une seule fois mourra deux fois, mais celui qui naît deux fois ne mourra qu'une seule fois ».